Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
On a des Québécois qui sont désespérés. On a des problèmes de santé mentale comme on n'en a probablement jamais eu dans notre société. On a des Québécois qui sont angoissés. Il n'y a pas de fun au Québec. On a aboli le plaisir ici depuis trop longtemps. Il est temps de remettre le Québec sur la normalité des choses. Et c'est ça le message du Parti conservateur du Québec. Et c'est ce qu'on va continuer à véhiculer. Parce que nous, pour nous, c'est la situation actuelle, elle est intolérable.
Mais pas pour nous, pas pour les autres, juste pour le Parti conservateur du Québec. Avec nous, il est chef du département de soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, Dr. Mathieu Simon. Dr. Simon, bonjour.
Bonjour, Monsieur Dutrisac.
Je vous embarquerai pas dans la politique, là. Faites-vous-en pas, je vais pas vous piéger de même. J'entends.
C'est intéressant pour
ça. j'entends vos craintes. Puis en même temps, là, hier, là, vraiment, je pensais à vous, je pensais à Dr. Daïn, à qui j'ai parlé. Vous êtes sur le plancher. Aujourd'hui, on annonce 98 décès. Comment vous réagissez quand vous entendez ce genre de propos-là?
Bien, écoutez, c'est d'un côté, mon cœur d'individu et de citoyen manque de normalité comme celle qui est prêchée par M. Duhem. Puis mon cœur de sciatique ou ma tête de sciatique et de médecin me dit, il y a encore des hôpitaux qui débordent. On se questionne, on l'a vu cette semaine, sur est-ce qu'on devrait donner des soins de moindre intensité pour se permettre de soigner tout le monde. Et je me dis que ce que prêche M. Duhem est intéressant, puis c'est vers là qu'il pousse. Tout le monde sait qu'il faut aller là. La question, c'est le moment. Parce qu'apprendre à vivre avec la COVID, comme M. Duhem le propose, ça veut pas dire faire comme si la COVID n'existait pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va faire comme on le fait avec les influenza, parce que le Omicron nous a montré que le COVID était moins sévère et que, quand vous annoncez, par exemple, 98 morts aujourd'hui, c'est des gens généralement âgés qui ont été vaccinés, mais qui ont fait un virus qui passait à travers les barrières vaccinales et qui ont débalancé des grands malades. C'est pas des gens de 25 ans en parfaite santé qui meurent. Il y en a une fois de temps en temps, mais c'est excessivement rare. Donc, ce qu'on voit dans la cinquième vague, parce qu'on va l'appeler comme ça, M. Dutrisac, c'est plus une population de mauvaises années d'influenza où des personnes encore généralement âgées et très malades en moyenne viennent à l'hôpital parce que c'est l'Omicron et les a débalancés suffisamment pour qu'ils se retrouvent hospitalisés. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui en décèdent.
Hier, Alain Laforêt présentait un reportage avec le Dr. Shields qui présentait ce qui se passe vraiment, là, des caméras et des images tournées par des médecins. Il disait 3/4 des gens aux soins intensifs sont des non-vaccinés. Est-ce que c'est exactement ce que vous vivez?
3/4, c'est peut-être un peu fort, mais c'est certainement une forte majorité. La population qu'on retrouve aux soins intensifs sont pour la majorité des gens qui n'ont pas été vaccinés du tout, ou des gens dont la dernière dose de vaccin remonte à plus de 6 mois et qui se retrouvent devant l'Omicron moins bien protégés. Donc, on est en train de réaliser que c'est pas tant le nombre de doses reçues que la date de la dernière dose qui est importante. C'est pour ça que le débat sur l'accès à la troisième dose est important. C'est pas une question d'avoir 3, 4, 5 doses, c'est une question d'avoir une dose avant qu'une nouvelle vague frappe.
Okay.
On a un peu raté le bateau. Parce qu'on pensait avoir vaincu le Delta, puis on voulait immuniser les enfants, puis l'attention a été dirigée vers la vaccination des enfants, qui en soi-même était tout à fait désirable, mais les ressources de vaccination étant limitées, on n'a pas pu offrir la troisième dose à des personnes, je ne parle pas des personnes en CHSLD, puis en RPA, qui ont été majoritairement vaccinés, mais plus aux personnes de 50 ans et plus, pour dire quelque chose, de qui sont vulnérables.
Mais là, excusez-moi, mais là, avec le retour à l'école, on nous dit, les aux parents, les enfants, 5 à 11 ans, faut attendre 8 semaines avant une nouvelle, la deuxième dose. Est-ce que ça s'applique ou il devrait avoir urgence et on devrait vacciner davantage?
Si vous avez eu votre dose dans les 3 à 4 derniers mois, vous êtes protégé contre l'Omicron. C'est les vaccinations, c'est les gens qui ont été vaccinés l'été dernier, par exemple, lors de leur deuxième dose, puis là, ils sont rendus à 6, 7, 8 mois d'absence de vaccin. Alors, le système immunitaire, c'est un peu apathie. Et ça vient de la façon dont les vaccins sont désignés, c'est-à-dire qu'en faisant des vaccins rapidement pour faire face à une urgence, on a choisi de vacciner uniquement contre les protéines les plus spécifiques à chacune des souches, et on n'a pas développé encore un vaccin qui soit généraliste sur le coronavirus. Puis c'est la prochaine étape en recherche scientifique, c'est-à-dire de prendre un vaccin qui va nous immuniser contre, on l'espère, toutes les mutations, les mutations fréquentes anticipées de ce virus.
Quand vous entendez, Dr Simon, là, une demande de retour à la normalité, là, de laisser faire les masques, le passeport vaccinal, puis que vous autres, de votre côté, vous êtes débordés, on vous retire vos vacances pendant les fêtes, vous faites du temps supplémentaire, vous vivez des affaires difficiles, est-ce que vous perdez patience des fois? Est-ce que vous avez pas le goût de nommer quelqu'un pour répliquer aux sottises que vous entendez dans les médias?
C'est perdre patience dans mon travail, on peut pas se le permettre, même si ça nous tente des fois. Il faut être patient. En fin de compte, ce qui me fatigue, M. Dutrisac, c'est que les gens qui disent qu'il faut revenir à la normale le plus vite possible, puis laisser faire les vaccins puis les passes vaccinaux, disent que cette façon-là crée un schisme dans la société entre les vaccinés et les non-vaccinés. Alors qu'en tenant ces propos-là, au contraire, c'est eux autres qui, par un manque de solidarité dans le tissu social, vont risquer de perturber la société. Par exemple, moi, j'ai pas d'enfants. Je paye une taxe scolaire et je paye des impôts pour que des enfants puissent aller à l'école par solidarité, parce que je pense que notre société, l'éducation, c'est important, même si moi, personnellement, j'en ai pas de rétribution directe. Mmh. C'est la même affaire avec les vaccins puis avec les mesures sanitaires. Je comprends que l'auditoire de certains politiciens, certains commentateurs soient jeunes et se perçoivent comme invulnérables au virus, ce qui est absolument pas vrai, mais ils le sont beaucoup moins que des personnes plus âgées, plus fragiles, immunosupprimées, mais c'est une question de solidarité, c'est-à-dire que lorsque la société va dicter un mode de vie pour tout le monde qui ne tient compte que des plus forts puis des plus vigoureux, ben on va laisser un paquet de monde derrière nous, puis si t'es vigoureux aujourd'hui, tu seras le vulnérable dans quelques années, dans quelques décennies, ouais. Et ça regarde pas très bien pour la cohésion sociétaire. C'est parce que si on décide de pas faire ces mesures-là pour protéger les plus vulnérables, ben à un moment donné, on va arrêter de payer des impôts pour, les gens en prison. On va arrêter de faire de faire notre travail de façon consciencieuse, parce qu'on le fait juste pour avoir un salaire et non pas pour rendre service à la société. Chacun pour soi. C'est un peu du Trumpiste, du redneck républicain qui commence à s'immiscer. Et puis ça, dans l'histoire de l'humanité, ça a jamais été un facteur de progression de la société. Une société, par définition, c'est un réseau. Puis, vous savez, on a souvent évoqué la notion de protéger le réseau de la santé. Il n'y a pas de raison de protéger le réseau de la santé. On protège la société, parce que le réseau de la santé est un élément de la société qui permet à la société de fonctionner, puis de prendre soin de nos plus malades. Puis, t'es en santé aujourd'hui, tu seras peut-être plus malade demain matin.
Ouais, ouais. Puis, est-ce que vous avez dit, là, à propos, Dr Simon, là, tu sais, les jeunes qui se sentent invincibles face à la COVID? Moi, j'entendais ça en 80, quand est arrivée la crise du sida, puis les ITS, puis les jeunes, là, puis les cigarettes, puis on se pense invincible à 20 ans, mais avec l'âge, ça change, là.
Le Dr Shields, dont vous citiez le reportage hier à l'Enfant Jésus, qui est un de mes bons collègues, parlait de roulette russe. Puis il a tout à fait raison. Il y a des parties qui, dans les années 80, qui se sont faites à l'émergence du VIH, où les gens avaient des relations sexuelles non protégées avec des sidéens. Puis c'était comme une espèce de jeu de trompe-la-mort. Bon, c'est un jeu dont je comprends pas vraiment l'intérêt, mais ça stimule certains, semblerait-il. C'est la même chose avec le défi face aux conditions sanitaires, face aux vaccins.
Ouais.
Puis, d'un côté, comme je vous le disais tantôt, je pense qu'il faut revenir vers une normalité. Et là, l'Omicron, on le connaît depuis à peu près 5 ou 6 semaines. Ça va nous permettre de repenser la protection. Moi, je pense qu'on retournera pas dans des couvre-feux puis dans des confinements très larges, mais on va avoir la préoccupation de cibler la protection chez certains individus. Puis, écoutez, depuis 2 ans, là, maintenant qu'on porte les masques, on se lève les mains en rentrant à l'épicerie, des influenzas, on n'en a pas vu au Québec. Alors qu'à chaque année, ça tuait énormément de personnes vulnérables. Donc, est-ce qu'on va pouvoir, puis c'est ça qui va être le vivre avec le COVID. Moi, je pense que me laver les mains en arrivant à l'épicerie, savez-vous, je pense que COVID, pas COVID, je trouve que c'est une bonne idée.
Mais d'entendre qu'il faut mettre fin aux mesures sanitaires dont vous parlez, Dr Simon, là. Et peut-être, si t'as la grippe, si t'as l'influenza, tu te mets un masque pour pas contaminer les autres. Si t'as la gastro, tu te mets un masque. Pensez-vous que ça va rester dans notre culture au Québec?
Ben, je pense que cette culture-là va s'accroître. Cette culture-là, malheureusement, est basée non pas sur le bien-être de la société, mais sur le bien-être de l'individu. Puis quand tu portes un masque, tu te protèges pas tellement toi-même, tu protèges les autres si t'excrètes le virus. Puis donc, ça, c'est troublant parce que, il y a quelques semaines, j'ai eu un patient qui a attrapé la COVID très, très sévère. Il s'est retrouvé aux soins intensifs avec des besoins d'oxygène. Puis, il avait refusé le vaccin parce que lui, il voyait pas l'intérêt pour lui-même et puis qu'il savait pas ce qu'il y avait dedans. Je lui ai proposé un traitement expérimental qu'il a accepté immédiatement, même s'il sait pas du tout ce qu'il y a dedans, parce que là, il percevait le bénéfice pour lui, l'individu. C'est ça qui est malheureux, c'est-à-dire que ce qu'on pense est une conviction, c'est-à-dire, écoutez, moi, c'est mon corps, mon royaume, on ne rentrera pas quelque chose qui est nouveau ou que je ne connais pas. Ben ça tient jusqu'à ce que tu sois, toi, personnellement, dans le trouble, plutôt que de regarder le bénéfice sociétaire global. Puis, écoutez, M. Dutrisac, moi, je pense qu'on est dû. On parle de réforme du réseau de la santé, puis je pense qu'on est dû. Puis, le rapport de cette semaine est une piste, je pense, qu'il faut poursuivre, pas juste pour les 4 ou 6 prochaines semaines, mais pour les prochaines décennies.
Ouais.
Mais il y a également une réforme ou une addition au réseau d'éducation. Puis, je pense qu'on devrait éduquer les jeunes à la responsabilité citoyenne, parce qu'on les a excessivement sensibilisés à la liberté citoyenne, puis je suis très heureux de vivre dans un pays qui est aussi libre que possible, mais il y a cette liberté-là, elle se paye par une certaine conscience de l'autre, une préoccupation de l'autre, sinon on perd tout.
OK, mais je vous suis là dans votre raisonnement, Dr Simon. Là. Je reviens à ce genre de propos, le retour à la normalité, on met fin aux mesures sanitaires, là, à un moment où les hôpitaux débordent encore. C'est un dilemme pour les médias, parce que est-ce qu'on transmet, est-ce que moi j'invite Éric Duhaime en entrevue, est-ce qu'on transmet son message, on peut pas le censurer non plus, les gens doivent savoir ce qu'il a à dire, puis en même temps, plus tu lui donnes la parole, plus il entretient cette espèce de discours qui est toxique pour la société. Qu'est-ce qu'on fait, les médias?
Bien, moi, je pense que M. Duhaime a le droit à son opinion. Il a le droit de l'exprimer. Et la dernière chose qu'il faut faire comme société, c'est empêcher l'expression d'une opinion. C'est sûr que plus tu t'approches d'un pouvoir, plus ça devient préoccupant, parce que quand une opinion dans un sous-sol est beaucoup plus facile à manager qu'une opinion sur la place publique. Ceci étant dit, ça appelle à beaucoup de gens, puis ça appelle un peu à tout le monde. C'est un peu ça. Tout le monde est tanné des mesures sanitaires, tout le monde est tanné du COVID, et donc c'est un discours séduisant. Il faut se méfier des politiciens qui ont un discours séduisant plutôt qu'un discours honnête. Vous parliez tout à l'heure de l'embellie là du rapport quotidien de la COVID là lors de l'émission Tout le monde en parle. C'est dangereux de promettre quelque chose qui est plus beau qu'il ne l'est vraiment. Même si tu y crois, même si tu essaies d'y trouver un espoir, la population te fait payer largement cet excès d'enthousiasme. Ben, M. Duhaime, il faut qu'il soit confronté à la réalité, tout simplement. Puis moi, écoutez, ça me ferait plaisir, à la rigueur, que moi ou qui que ce soit d'autre qui est au front, réponde à M. Duhaime dans un espèce de débat où les gens pourraient comprendre. Parce qu'il ne faut pas museler les anti-vaccins, les anti-mesures sanitaires. Il faut juste les amener à voir l'autre perspective.
Et c'est ce qu'on n'a pas fait, hein? C'est ce qu'on n'a pas fait dans les médias, Dr. Simon, là. Puis sincèrement, ça, si j'étais encore au franc-tireur, je l'aurais fait. Mais à soir, des propos anti-vax et anti-mesures sanitaires avec un scientifique qui va juste répondre à ces affirmations-là, il me semble que ça serait un service public.
Ben, je pense que ce serait un exercice intéressant, sociétairement parlant, parce que toutes les opinions ont la capacité d'exister à quelques exceptions près. Là, il y a des affaires qui sont complètement intolérables, mais dans une gestion d'une pandémie dont le modèle est loin d'être validé nulle part dans le monde, que des opinions s'expriment, que ouais. des propos, parfois plus ou moins scientifiques ou périmés, soient utilisés pour défendre une position, ça témoigne d'une très grande confusion dans la tête de tout le monde.
Ouais.
Puis quand vous regardez ça, les anti-vaccins, les anti-mesures sanitaires, ils se basent sur des opinions exprimées par d'autres et par l'échec relatif perçu de la santé publique. Mais M. Trizac, on sait qu'on a eu 12 000 morts au Québec à cause de la pandémie jusqu'à maintenant. C'est un échec. Mais si on n'avait pas fait ces mesures-là, puis on ne le saura jamais,
c'est ça.
Est-ce qu'on en aurait eu 50 000, 100 000? On ne le saura jamais. Ouais. C'est la faiblesse de la médecine préventive, c'est que si ça fonctionne, tu ne te rends pas compte que ça fonctionne, et si ça échoue, ben, t'en payes chèrement le prix comme politicien ou comme responsable de santé publique.
C'est comme la ceinture de sécurité, finalement. Tiens, on ne le saura jamais. OK, deux affaires...
Juste emmerder jusqu'à ce que ça te sauve les yeux.
Deux affaires avant qu'on se quitte, Dr. Simon, là, rapidement. Oui. Il reste que quand Éric Duhaime dit, tu sais, des incongruités dans les politiques du gouvernement, on peut travailler à la SAQ sans vaccin, mais on peut pas y acheter une bouteille de vin. C'est là où c'est dangereux, parce qu'il y a des arguments qui se tiennent, mais dans un contexte, dans un discours plus large, qui, je pense, est nocif pour la santé publique. Faut décoder tout ça, là.
Les gens ont rarement totalement tort. C'est le danger dans une société, c'est quand il y a une dérape sans contrepoids d'une direction ou dans l'autre. Et s'il y avait une dérape sanitaire, comme on le voit en Chine présentement, où on a choisi très clairement d'avoir le risque zéro et que là, on refoule des athlètes olympiques tout en voulant organiser des Olympiques, il y a des contradictions immenses.
Ouais.
Puis donc, s'il y avait un contrepoids au Parti communiste chinois, ben peut-être qu'on vivrait plus libéralement là-bas. Même chose ici. Les mesures sanitaires ne sont pas allées aussi loin qu'elles auraient pu parce que notre culture sociétaire nous interdit d'aller aussi loin. On ne verra pas l'armée imposer un couvre-feu dans les rues du Québec. C'est pas nous autres, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on accepte un risque qui n'est pas nul. À l'opposé, si on laisse tout aller, ben c'est tout aussi dangereux parce qu'on va se retrouver avec une circulation exagérée du virus au moment où le réseau de santé qui récupère ceux qui sont tombés au combat est très, très mal pris. Alors, il y a un équilibre. Puis je vous dis pas que M. Duhaime prône des choses qui sont complètement illogique, au contraire, mais elles sont, on veut tous revenir vers une certaine normalité, mais ça va être une normalité un peu différente, comme on a appris à voyager normalement après le 11 septembre 2001 en ayant plus de contrôle, mais c'est une nouvelle normalité qui tient compte d'un nouveau risque qu'on ne connaissait pas avant. Et donc, prôner le retour à la normale, quant à moi, c'est comme vous dire, écoutez, on retourne dans nos cavernes, puis on va manger du gigot de brontosaure pour souper.
Est-ce qu'on a atteint le pic des hospitalisation, pensez-vous?
Je crois que oui. Le prochain danger pour le réseau, c'est pas tant les entrées, parce que vous l'avez vu, elles ont commencé à se compenser. C'est avec l'ouverture des écoles, la ronde des isolements du personnel de la santé et des travailleurs en général à cause de contacts avec, par l'intermédiaire de leurs enfants, avec une classe où il y a une éclosion. Puis écoutez, moi, je suis en charge des horaires ici, là, puis j'ai déjà deux, trois points oranges qui clignotent sur mon horaire parce que justement, des médecins, des infirmières qui ont des jeunes familles, il y a des éclosions, puis là, il faut protéger la population. Puis ça va faire partie aussi d'apprendre à vivre avec le virus. Est-ce que si t'es en bonne santé, que t'as un contact, mais que t'as aucun symptôme, c'est correct de te garder à la maison pendant 10 jours? Ça, c'est très, très lourd pour tout le monde, pour la santé mentale de l'individu qui est isolé, pour la structure familiale, mais aussi pour la structure de la société, parce que ça soustrait, jour après jour, 5 à 6 % de la force de travail de la société, y compris dans un hôpital où on peut pas se permettre de perdre 5 à 6 % de nos travailleurs.
C'est fou raide. Ben, docteur Mathieu Simon, merci, un gros merci d'avoir pris le temps de nous parler. Lâchez pas et saluez toute votre équipe, parce que vraiment, on apprécie ce que vous faites là en cette pandémie. Merci à vous.
Merci des questions, ça a été très intéressant. Bonne fin de journée, M. Dutrisac.
Ça marche.